ズ。De passage à Lourdes. De passage à Lourdes.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en compagnie du père Régis-Marie de la Tessonnière. Bonjour père.
Bonjour.
Nous allons nous plonger dans la spiritualité de la petite Bernadette. Est-ce qu'on oserait dire, père Régis-Marie de la Tessonnière, que finalement, et presque paradoxalement, on a très peu écrit sur la spiritualité de Bernadette?
C'est vrai, beaucoup de livres portent en titre le nom de Bernadette, mais le plus souvent, ce sont des ouvrages qui reprennent l'histoire de Bernadette, la petite bergère, les apparitions, le départ à Nevers. Bon, tout ça est bien, tout cela est vrai, mais on a rarement approfondi finalement la spiritualité de Bernadette, c'est-à-dire quelle est sa manière de vivre profondément, de vivre intensément sa vie chrétienne. Et j'ose dire que les seules personnes qui s'y sont essayées sont de grands spécialistes qui ont placé peut-être la barre un petit peu haute et qui ont écrit des choses qui ne sont pas très compréhensibles, essayant de voir si Bernadette aurait une spiritualité plutôt carmélitaine, plutôt bénédictine, plutôt ignatienne, plutôt dominicaine, que sais-je. Voilà. Alors que Bernadette, c'est d'abord et avant tout, et surtout et essentiellement, une fille de l'Église, une chrétienne. Donc la spiritualité de Bernadette, c'est la vie chrétienne. Mais la vie chrétienne vécue pour de vrai, sérieusement, jusqu'au bout.
Vous allez nous permettre dans cette émission de nous immerger dans cette spiritualité, un tant soit peu. J'invite bien sûr nos auditeurs à lire cet ouvrage pour aller beaucoup plus loin, la spiritualité de Bernadette chez Arthège. Mais qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de visible, de palpable dans la vie de Lourdes actuelle? Alors, selon vous, de la spiritualité de Bernadette?
Voilà, le père René Laurentin, qui est le grand historien de Lourdes, a écrit ceci. Bernadette est à Lourdes ce que Marie est à l'Église. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Marie, la Vierge Marie, est l'image de l'Église. Et qu'en contemplant la Vierge Marie, on voit l'Église telle qu'elle est appelée à être, telle qu'elle sera un jour. Bon. Et si donc Bernadette est à Lourdes la même chose, en contemplant Bernadette, on voit le fruit ultime de la grâce de Lourdes. Mais en même temps, si on prend cette chose-là dans l'autre sens, en regardant Lourdes aujourd'hui, eh bien, on comprend la vie de Bernadette. Alors bien sûr, la vie de Bernadette, elle a été béatifiée, elle a été canonisée. La grâce de Lourdes chez Bernadette a été jusqu'au bout. Elle a porté tout son fruit. Et ce que nous voyons par contre à Lourdes aujourd'hui, c'est quelque chose de plus imparfait. C'est en marche. Je dirais que comme Bernadette, par exemple, nous prions le chapelet. Comme Bernadette, nous faisons le chemin de croix. Comme Bernadette, nous essayons de vivre intensément l'Eucharistie. Mais tout ça de manière plus parfaite. Alors, c'est d'autant plus important de regarder Bernadette pour arriver à mieux prier le chapelet, à mieux vivre notre dévotion du chemin de croix et à mieux participer à l'Eucharistie, pour prendre ces exemples.
Bernadette a-t-elle, par exemple, processionné? Est-ce que tout cela, tout ce que l'on voit de Lourdes aujourd'hui, c'est le fruit, d'une certaine façon, de la spiritualité de Bernadette?
Alors, processionner, je dirais oui et non. Oui, parce que la procession de Lourdes a deux sens. Dans le patois local, procession veut dire en même temps pèlerinage. Et Bernadette, qui est le premier pèlerin de Lourdes, est venu par 18 fois à la grotte, 2 km aller, 2 km retour, multiplié par 18, ça fait un pèlerinage, une procession de 72 km. Bon, nous-mêmes, que nous habitions près, que nous habitions loin, c'est notre première procession qui consiste à venir à Lourdes. Mais là aussi, l'exemple de Bernadette est très intéressant, puisque quand Bernadette quittait ou l'église paroissiale ou le cachot où elle habitait, elle entrait déjà dans un état de recueillement préalable à la rencontre. Et c'est ça un petit peu le pèlerinage. Quand on vient à Lourdes, eh bien, on s'y prépare. Certains pèlerins qui viennent du fin fond de l'Italie mettent 24 heures, 36 heures par le train, mais ils vivent ce temps-là comme un temps de préparation, de priant et même vivant l'Eucharistie. Et le deuxième aspect de la procession, c'est ce que l'on connaît de Lourdes aujourd'hui, ces processions qui sont à l'intérieur du domaine de la grotte. Bernadette y a un petit peu participé, notamment puisqu'elle était là le jour où a été célébrée la première messe à la crypte et la première messe à la grotte en 1866, quelques semaines avant son départ. Voilà, ces messes qui ont donné lieu à chaque fois de grandes procession.
Il y a aussi peut-être un aspect très important qui reste de la spiritualité de Bernadette à Lourdes, c'est l'invisible, c'est le fait que beaucoup de personnes viennent à Lourdes sans jamais y venir, ou par la pensée, par la prière. Bernadette faisait cela aussi beaucoup, d'après ce qu'on a lu et perçu.
Le pèlerinage spirituel, c'est ça. Alors ouais. Aujourd'hui, la vie moderne nous fait parler de virtuel. Ouais. On fait un pèlerinage virtuel parce qu'on se connecte par l'Internet, sur son ordinateur ou sur son smartphone, sur la grotte de Lourdes, auquel on a accès par une webcam. Tout ça est très bien et très réel, et ça marche dans le monde entier. Mais Bernadette a toujours pratiqué le pèlerinage spirituel. Bernadette est une enfant de Dieu, une enfant de l'Église, une enfant de Marie. Et à la manière de la Vierge Marie, qui elle-même gardait et méditait toutes ses paroles, pas seulement les paroles, puisque le terme de l'Évangile veut dire en même temps parole, veut dire événement, veut dire acte. Marie gardait donc et méditait en son cœur tout ce qu'elle avait vu et entendu dire par Jésus, faire par Jésus. Et tel était son pèlerinage. Et de la même manière, Bernadette, quand elle a quitté Lourdes en 1866 pour vivre les 13 dernières années de sa vie à Nevers comme religieuse, eh bien, elle nous dit que chaque jour, elle va faire son pèlerinage à la grotte. Ça veut dire qu'elle descend dans son cœur et elle se représente par sa mémoire, la grotte de Lourdes, voilà. Et elle va reboire à la source, elle va rencontrer spirituellement, il ne s'agit plus d'apparition, elle va rencontrer spirituellement la Vierge Marie, en se remettant dans le lieu où elle était en 1858, en se remettant également dans le lieu où elle était la veille. Tel est son pèlerinage spirituel. Et cela, Bernadette le vit, j'oserais dire, d'autant plus facilement, ou en tout cas d'autant plus naturellement, que c'est comme ça qu'elle vit la méditation du chapelet. C'est comme ça qu'elle vit la pratique quotidienne du chemin de croix. C'est comme ça qu'elle vit aussi le fait de s'associer à longueur de journée quand elle est malade, quand elle est alitée pendant des années de sa vie, pour s'associer à une messe célébrée quelque part. Il est très frappant de voir que dans l'infirmerie où elle a passé tant de temps, au couvent Saint-Gildard de Nevers, eh bien sur le tissu, le voile qui entoure son lit, il y a quelques images, et sur ces quelques images sont représentées ce qu'elle appelle des moments de la célébration de la messe, justement pour pouvoir fixer un moment précis de la messe et s'associer à une messe célébrée quelque part. Et ensuite, elle connaît le déroulement de la messe. Voilà. Et Bernadette précise qu'elle renouvelait cet acte toutes les demi-heures. Voilà. Donc elle vivait en esprit la célébration de la messe quand elle ne pouvait pas s'y associer en y participant, et elle faisait la même chose pour le chapelet.
C'est donc une invitation à l'adresse de chacun de nous pour justement aller à la source comme cela, faire un pèlerinage de ce type.
Alors tout ça, c'est basé, cette spiritualité du pèlerinage intérieur est basée finalement sur une expérience humaine. Hein. Nous-mêmes, nous faisons cette expérience dans la vie familiale. Par exemple, je me souviens d'une famille, d'une femme me montrant la photo de son mariage qui était encadrée sur un des meubles dans la maison. Elle me dit, c'est là que je viens quand j'ai quelques doutes, quand j'ai quelques difficultés avec mon mari et mes enfants. Et c'est là, en voyant cette photo, que je comprends pourquoi je suis là aujourd'hui. Et voilà que je retrouve force, courage pour continuer le chemin. Mais chacun d'entre nous procède de la même façon, peut-être par rapport à la photo de son ordination pour le prêtre, à la photo de sa première communion ou d'un autre événement qui nous rappelle cet événement fondateur, qui nous redit pourquoi nous sommes là et qui, en même temps, nous rappelant cet événement fondateur, nous permet de puiser à cette source.
Jean-Paul II lui-même pratiquait cette démarche.
Jean-Paul II a fait une déclaration très étonnante. Quand il s'est rendu en Pologne pour la première fois après avoir été élu pape, il s'est rendu à Cracovie où il avait été l'archevêque, mais aussi où il avait été ordonné prêtre, un 1er novembre. Et il s'est rendu à l'endroit où il a célébré sa première messe le lendemain de l'ordination, c'est-à-dire un 2 novembre. Et il a confié qu'il se rendait depuis ce jour-là tous les jours, voilà, en esprit, tel est son terme, dans cet endroit-là. Voilà. Jean-Paul II a pratiqué le pèlerinage spirituel tous les jours de sa vie, depuis son ordination sacerdotale, pour aller boire à la source de ce sacrement de l'ordre, et en précisant, non pas au lieu de son ordination, mais au lieu où il a célébré la première messe, c'est-à-dire au lieu où il a mis en pratique la grâce qu'il avait reçue.
Voilà, le pèlerinage spirituel. Pour tous ceux qui nous écoutent, finalement, c'est une magnifique invitation, hein, réhabiliter, remettre en exergue cette démarche du pèlerinage spirituel. Nous marquons une pause dans cette émission. La spiritualité de Bernadette, parue aux éditions Artege, avec une préface de Mgr Nicolas Brouvet, qui est l'évêque de Tarbes-et-Lourdes. C'est vous qui signez cet ouvrage, Père Régis-Marie de la Tessonnière. Vous êtes chapelain des sanctuaires Notre-Dame de Lourdes. À tout de suite.
Vous souhaitez réagir, jouer, communiquer, déposer une intention de prière ? Radio Présence met à votre disposition un serveur vocal au 0892 46 00 12.
34 centimes la minute.
Chaque jour de la semaine et à toute heure de la journée, téléphonez au 0892 46 00 12.
0892 46 00 12.
Le standard des auditeurs. De passage à Lourdes. De passage à Lourdes.
Aujourd'hui, nous osons modestement nous plonger dans la spiritualité de Bernadette Soubirous, cette petite Bernadette qui, forcément, durant le mois de février, est mise à l'honneur, puisque un 11 février, date de la première apparition, c'est le 11 février 1858, on fête Bernadette Soubirous le 18 février, il y a un certain nombre
En France,
on fête bien entendu Bernadette à d'autres moments et en particulier un 16 avril, je crois, dans certains pays, puisque c'est un 16 avril que Bernadette Soubirous, en 1879, est morte. Le mois de février, c'est le temps du début des apparitions. C'est donc forcément un temps très fort pour Lourdes. On a dit en début d'émission combien finalement on a assez peu décrit la spiritualité de Bernadette. Alors, on s'est attaché à voir ce qu'il y a de saillant aujourd'hui dans la vie de Lourdes, de cette spiritualité, notamment cet aspect, le pèlerinage intérieur, qui a un lien très fort que beaucoup de pèlerins ou d'anciens pèlerins de Lourdes ont encore avec Lourdes au quotidien. Si on devait, vous nous avez dit, c'est dans aucune école finalement Bernadette, on n'arrive pas à la classer. Si on devait tout de même caractériser sa spiritualité, qu'est-ce que vous pourriez nous dire ? Vous-même, vous chapitrez hein, très précisément l'accueil, le désir, le second mouvement, sa prière du chapelet, etc. Comment on caractérise cette spiritualité de Bernadette ?
La spiritualité de Bernadette, c'est la vie chrétienne, tout simplement. Et c'est la manière dont elle vit la vie chrétienne. Le désir a une très grande place dans son expérience. Et Bernadette est une personne de caractère, de tempérament, et qui avance avec le désir. Et ce désir va grandir petit à petit dans sa vie. Et à chaque fois qu'un désir n'est plus nécessaire, eh bien, elle va se laisser entraîner, se laisser porter, se laisser pousser par un autre désir. Alors, le désir pour Bernadette, avant les apparitions, c'est son désir de faire la première communion qui va faire qu'elle va revenir à Lourdes, alors qu'elle est au petit village de Bartrès à ce moment-là. Ensuite, c'est le désir de revoir la dame pendant les apparitions qui va lui permettre de surmonter toutes les difficultés immenses et nombreuses qui l'empêchent d'aller à la grotte. Et puis, petit à petit, on voit que ce désir se simplifie. C'est le désir du ciel. C'est le désir d'être uni au Christ. C'est le désir de Dieu. Voilà, qui la pousse et qui la tire dans la pratique de sa vie spirituelle.
Vous réhabilitez totalement, d'une certaine façon, ce mot qui peut être piégé parfois dans
le langage actuel. Oui, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on ne le réduit qu'à certaines activités humaines. Mais le désir dans la vie spirituelle est ce qu'il y a de plus grand, de plus beau. Pensons aux femmes de désir dans la Bible. Pensons à la sœur de Moïse. Pensons à Marie-Madeleine. Pensons à la Vierge Marie, dont le désir est pur, intact, immaculé.
Vous caractérisez aussi la spiritualité de Bernadette à travers l'accueil. Et puis après, on parlera du second mouvement, oui. Parce que là, on s'arrêtera un peu là-dessus.
L'accueil, c'est important d'en parler en cette année de la foi, car nous-mêmes, nous sommes tous marqués que nous sommes par le péché, nous sommes tous craintifs, peureux. Notre premier réflexe souvent va consister à nous protéger par rapport à l'autre. Mais voici que Bernadette a, par grâce, eh bien, quelque chose qu'elle va développer, cette ouverture à l'autre. Hein, cette ouverture, d'abord cet a priori positif, mais en même temps cette ouverture à l'autre. Et ceci va lui permettre, dans sa vie spirituelle, à ouvrir de plus en plus son cœur et finalement à correspondre. Alors, c'est très intéressant d'étudier son expérience des apparitions, sa relation avec la Vierge Marie sous cet angle-là. Bernadette essaie toujours, c'est pas évident pour elle, de correspondre à la dame, de correspondre à la Vierge. Et puis finalement, voilà, Bernadette va correspondre au Christ, elle va correspondre à Dieu. Tout ça, c'est par cette attitude d'accueil.
Et quand vous dites correspondre, ça paraît jusque dans le physique même, parfois, dans l'attitude physique.
C'est tout son être, corps, cœur, âme, esprit. Physiquement, par exemple, Bernadette comprend très vite, pendant les apparitions, que ça ne lui sert à rien de vouloir faire le signe de la croix avant la Sainte Vierge. Donc, elle va correspondre en attendant que la Sainte Vierge fasse le signe de la croix, et elle le fera au même moment qu'elle.
Nous allons maintenant nous arrêter sur ce que l'on appelle le second mouvement. Vous osez dire que c'est une des clés de la spiritualité de Bernadette.
C'est ça.
Alors, comment comprendre ce que ça signifie, le second mouvement, dans cette spiritualité de Bernadette ?
Alors, le second mouvement, déjà, il nous vient par une parole de Bernadette qui a été rapportée par l'une de ses compagnes de Lourdes, devenue Julie Garrosse, devenue sœur Vincent Garrosse au couvent Saint-Gildard de Nevers, donc devenue sœur de la charité de l'instruction chrétienne de Nevers, comme Bernadette, et en même temps qu'elle. Elle lui dit ceci: le premier mouvement ne nous appartient pas, le second, oui. Alors, quel est le premier mouvement ? C'est dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos gestes, dans nos actions, c'est ce que l'on va faire un peu spontanément. Si on me dit quelque chose, où je prends d'abord l'exemple de Bernadette, Bernadette est une personne de tempérament, donc elle était capable de réagir très vivement. Et si on lui disait quelque chose qui ne lui plaisait pas, eh bien elle était capable de le manifester. Voilà son premier mouvement. Elle-même, d'ailleurs, Bernadette se décrit comme une personne bouillante.
Ça nous la rend très proche.
Voilà, voilà, tout à fait. Mais après le second mouvement, après le premier mouvement, le second. Quand Bernadette comprenait qu'elle avait réagit un peu vivement, qu'elle avait mal parlé ou qu'elle n'avait pas assez bien parlé, qu'elle n'avait pas ouvert son cœur pour accueillir l'autre, elle s'arrêtait, elle appelait Jésus au secours et avec l'aide de Jésus, elle reformulait sa parole, le second mouvement. Alors on voit que ce second mouvement, nous-mêmes, nous le pratiquons un peu à la manière de M. Jourdain, entre nous. Les époux entre eux, les parents avec leurs enfants, les patrons avec leurs employés, les employés entre eux, les employés avec leurs patrons, et ainsi de suite. Pourquoi ? Parce que souvent, nous disons, tiens, là quand même, j'ai peut-être dit des paroles un peu dures. Je vais aller les nuancer. Ou alors, elle m'a proposé cela, j'ai refusé, mais peut-être que je peux aller nuancer. Voilà, on a peut-être un peu de remords, ou alors parfois, ça marche dans l'autre sens, en disant « j'étais trop gentil, je vais vraiment lui dire ce que je pense bon. ». Donc, on a cette ouverture aussi au second mouvement. Mais voilà que Bernadette nous enseigne qu'entre le premier et le second mouvement, il y a la place pour le Christ. Le premier mouvement, en effet, il repose sur ce que nous sommes et que nous n'avons pas choisi. Je n'ai pas choisi ma naissance, je n'ai pas choisi mon atavisme, je n'ai pas choisi pour toute une part mon histoire, qui fait que finalement je réagis un peu spontanément de cette façon-là. Par contre, le second mouvement, je peux le choisir. Je peux le choisir. Voilà. L'évangile a cette parabole, Jésus dans l'évangile a cette parabole magnifique. Un homme avait deux fils. Il dit à l'un, va travailler à la vigne. Il lui dit oui, il n'y a là pas, et il dit à l'autre vas-y, et l'autre fait le contraire, il lui dit non, et finalement il se repent et il y va. Voilà le second mouvement, ça peut marcher dans les deux sens. Mais pour Bernadette, et j'espère pour chacun, chacune d'entre nous, avec Bernadette et à sa suite, le second mouvement, entre le premier et le second mouvement, il y a le moment de la rencontre avec le Christ. Et là, on rejoint la spiritualité de Saint Paul. Saint Paul nous disant, c'est quand je suis faible que je suis fort, c'est quand je suis faible parce que je viens de mal parler à mon frère, à ma sœur, premier mouvement, que je suis fort car c'est là où je vais rencontrer le Christ. Et le Christ, dans le mystère de sa Pâque, de sa mort-résurrection, va me faire passer par lui, avec lui, en lui, de mon premier mouvement à ce second mouvement qui sera vécu normalement, dans la paix, fraternellement, en frère du Christ, en sœur du Christ, en enfant de Dieu. Le secret de Bernadette, ce n'est pas simplement le second mouvement, c'est que toute sa vie, elle a tout fait deux fois. Voilà. Mais avec quand même des grandes améliorations, et c'est très touchant de voir que les témoignages qu'on a des autres religieuses qui nous disent qu'à la fin de sa vie, elle voyait dans la pureté de son regard juste un petit nuage qui montrait que, voilà, que le premier mouvement apparaissait, mais déjà le second l'avait emporté.
une spiritualité de Bernadette qui peut nous inspirer et nous donner bien des clés pour vivre aujourd'hui dans ce monde. Sur maintenant, dans les quelques minutes qui nous restent, sur le personnage de Bernadette, on a le sentiment qu'on a tout écrit sur elle, qu'on la connaît assez bien pour l'avoir beaucoup photographiée, puisque c'est une époque où on a commencé la photo, donc elle posait, on lui a fait écrire de belles phrases. Nous avons aussi ses notes intimes. Il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été écrits, des sommes même. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur tout cela, sur tout ce qu'on écrit sur Bernadette ? Est-ce qu'on a réussi à tout dire ou bien vous diriez que finalement, il faut peut-être encore aujourd'hui se repencher sur la question des sources pour savoir quelle est la vraie Bernadette ?
C'est ça, on n'a certainement pas tout dit. Bernadette est une personne touchante, attachante, parce que vraie, parce que authentique. Et ça aussi bien la petite fille des apparitions que la religieuse souffrante sur son lit d'infirmerie. C'est une personne vraie, authentique, et une personne qui a le désir de bien faire et surtout de faire le bien. Voilà, ça c'est la toile de fond. Ensuite, Bernadette est une personne qui est brûlée par l'amour de Dieu, brûlée par l'amour du Christ, brûlée par l'amour de la Sainte Vierge, et qui va essayer de canaliser tout ce qu'elle est, de mettre tout en œuvre au service de Dieu, pour Dieu. Par amour pour Dieu. Voilà, ça c'est quelque chose d'extrêmement fort. Mais en même temps, et là c'est le point sur lequel nous butons tous, j'ose dire, Bernadette est une personne profondément cachée. Profondément cachée. Alors elle est cachée, quand elle rentre dans ce couvent Saint-Gildard à Nevers, pendant les 13 dernières années de sa vie, elle ne sort pas, donc elle est cachée au regard des foules. Mais elle est cachée aussi par rapport à ses supérieurs qui, finalement, n'ont, pour certaines d'entre elles, en tout cas, n'ont pas compris la grande sainte qu'elle était. Et en même temps, finalement, elle est cachée à elle-même. J'aime bien cette parole du père Laurentin, qui est le grand historien de Lourdes, qui dit ceci. « Bernadette, fragile et forte, souffrante et pleine d'humour, humble et victorieuse, représente avec Catherine Labouret un nouveau type de sainteté que Notre-Dame a éveillé pour faire ressurgir, à l'approche du troisième millénaire, l'essence même de l'Évangile. » Voilà Bernadette. Catherine Labouret étant Sainte Catherine Labouret, la religieuse donc, qui a bénéficié de cette apparition de la Vierge Marie rue du Bac. Et le père Laurentin poursuit, tout ça c'est dans le liminaire de sa petite vie de Bernadette, « longtemps cachée à l'ombre des apparitions et des miracles de Lourdes, Bernadette a révélé aux études de l'histoire une personnalité bouleversante d'humanité et de sainteté. » Voilà. Et là, le père Laurentin donne une clé, c'est-à-dire que souvent, l'idée que nous pouvons nous faire de la sainteté, c'est une perfection théorique, ce sont un peu des extraterrestres, les saints et les saintes. Pas du tout. Il s'agit d'humanité. Et une des choses qui caractérise Bernadette, autant au niveau de sa nature que de sa vie spirituelle, c'est son humanité. Cette humanité que j'oserais appeler une humanité de qualité. Et à travers son humanité, Bernadette nous dit quelque chose du projet d'amour de Dieu. À travers son humanité, Bernadette nous dit quelque chose de la Vierge Marie. À travers son humanité, Bernadette nous dit quelque chose du Christ, de l'humanité du Christ. Voilà, une humanité quasi parfaite, en tout cas une humanité de qualité. Et là, ça ouvre des horizons, c'est-à-dire que, ici à Lourdes, mais pas seulement, nous avons tous rencontré dans notre existence, peut-être, des gens qui ne payent pas de mine, de braves gens, comme on dit, mais des gens d'une humanité de qualité. Et quand on voit des gens comme ça, et il y en a à Lourdes, eh bien, j'ai cette parole qui me vient en ce qui me concerne, cette parole de Jésus à ce jeune homme, « Tu n'es pas loin du royaume des cieux ». Voilà.
Merci Père Régis-Marie de la Tessonnière. Je rappelle que la spiritualité de Bernadette, c'est le titre de cet ouvrage que vous signez aux éditions Artege.
Merci.
Et à bientôt, j'espère. Au revoir.
Présence. Présence. De passage à Lourdes. Présence.
Et si parmi vos efforts de carême, il y avait Radio Présence? Pour que votre radio chrétienne continue d'émettre, soutenez-la. Faites dès à présent un don en ligne sur notre site radioprésence.com.
Vivante Église,
Vivante Église,
Vivante Église, la vie des chrétiens en Midi-Pyrénées. Des invités en direct, l'actualité de l'Église dans toute la région.
Vivante Église,
du lundi au vendredi de 9h à 10h,
rediffusion 21h.
Un magazine présenté par Emmanuel Pella.